Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel pour l'émission Un livre, un auteur, Jonathan Louly. Jonathan Louly, donc, qui a écrit « Le travail social face à l'incertain », avec un sous-titre « La prévention spécialisée en quête de sens » aux éditions L'Harmattan, dans la collection « Éducateurs et prévention », collection d'ailleurs que je dirige. Donc, Jonathan n'est pas pour moi un inconnu, c'est la raison pour laquelle nous allons nous tutoyer. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Bon, déjà, on est très heureux à Radio Grand Ciel de te recevoir ici pour parler de ce livre et puis pour parler aussi de toi, de tes projets et du sens en fait que tu mets dans toutes les choses que tu réalises. Alors, dire d'abord que tu es sociologue et que tu as travaillé de nombreuses années dans le champ d'action sociale comme éducateur en prévention spécialisée. Je crois que je ne me trompe pas.
C'est ça, oui.
Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et puis nous dire les raisons qui t'ont amené à travailler dans le champ du travail social ?
Tout à fait. Eh bien, effectivement, comme tu dis, moi à la base, j'ai plutôt été formé à l'université en sociologie et en anthropologie, qui sont des disciplines, pour faire court, qui étudient les comportements collectifs, les phénomènes de société. Et... C'est dans le cadre de mes études que, quand j'ai dû choisir des sujets de recherche, j'ai développé un intérêt pour le travail social au sens large, parce que la fonction du travail social dans la société m'intéressait beaucoup, parce que je me questionnais beaucoup sur... Les phénomènes d'inégalité, comment est-ce qu'on peut quand même travailler le lien social, la cohésion sociale, malgré des inégalités, malgré parfois des pathologies de la justice sociale, de tous ces phénomènes-là. Et le travail que faisaient les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales me paraissait intéressant à interroger de ce point de vue-là. Peut-être aussi parce que j'ai des parents qui sont travailleurs sociaux et que comme job étudiant, j'ai travaillé aussi comme animateur avec des adultes handicapés mentaux. Donc du coup, voilà, je me suis retrouvé très rapidement à étudier le travail social d'un point de vue de sociologue et d'anthropologue. Donc je questionnais les professionnels sur leurs pratiques et puis sur le sens qu'ils donnaient à leur travail, à leur activité. Et puis en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai validé mon master d'anthropologie, je me suis vite rendu compte que poursuivre en tant que chercheur professionnel dans le cadre d'un doctorat ou quoi, c'était pas ce qui me convenait tout de suite. Et puis par ailleurs, il y avait tout simplement le fait qu'il fallait que je gagne ma vie aussi et que du coup, j'ai postulé, donc j'avais fait des recherches plus approfondies sur notamment la prévention spécialisée, donc l'activité des éducateurs et des éducatrices de rue implantées dans un quartier qui vont à la rencontre de la population, etc. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressé, beaucoup interpellé. Et donc, voilà, donc après mes études, quand j'ai eu besoin de trouver un revenu, j'ai postulé à une offre d'emploi d'éducateur de rue en Seine-Saint-Denis. Et puis, j'ai été pris tout de suite parce que j'avais quand même fait plusieurs années de recherche sur ce métier-là. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler comme travailleur social, comme éduc de rue. Et puis, j'ai fait une carrière de quelques années en prévention spécialisée. J'ai formé aussi des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales. Et puis, en parallèle, en plus de ça, je continuais à publier des articles, des petits travaux de recherche, etc. Et puis, ensuite, j'ai eu d'autres postes de travailleur social.
En région parisienne toujours ou...
Toujours en région parisienne. Notamment, j'ai fait une saison dans un centre d'hébergement d'urgence pour des. Bah là, c'était pour des hommes uniquement, mais donc du coup, c'était des mecs qui étaient orientés par le 115, donc qui arrivaient de la rue directement. Ce qui m'a permis ensuite de rebondir sur un poste de responsable de résidence sociale. Donc là, c'est un peu le niveau au-dessus dans la chaîne de l'insertion par le logement. Donc c'était des logements, des appartements plus stables, enfin stabilisés quoi on va dire, et où donc j'ai travaillé aussi quelques temps là-dedans, et puis là dernièrement j'ai déménagé à Rennes, enfin à côté de Rennes, et puis je développe une activité indépendante de, on va dire, formateur et chercheur dans les domaines du travail social, des sciences sociales, au sein d'une coopérative. Je ne suis pas auto-entrepreneur, mais voilà, grosso modo, comment je me suis retrouvé à bosser dans le social et puis où j'en suis maintenant.
Bien, alors bon, pour les auditeurs, il importe aussi de dire que tu es jeune, tu as 30 ans.
C'est ça.
Donc, tu es au début, en fait, de ta vie professionnelle, on va dire.
Ouais, ouais.
Mais qui est déjà bien remplie, puisque tu as été tour à tour, salarié, ensuite, on va dire, entrepreneur, et puis là, tu es dans une coopérative, enfin bon, tu explores un peu les différentes formes du professionnalisme dans la sphère du travail social. Hein. Voilà, donc tu es également formateur, tu interviens à l'école, à l'IRTS de Montrouge, je crois, c'est
oui,
ça ?
Oui, principalement à Montrouge, mais après je suis intervenu dans d'autres centres de formation. Je fais des vacations à chaque fois parce que, effectivement, comme tu dis, il y a un côté que je revendique quand même un petit peu dans mon parcours, un côté un petit peu nomade, en fait, que j'ai... à la fois par choix, par démarche, et puis aussi, je pense, pour plein d'autres raisons plus ou moins conscientes, je ne tiens pas forcément à me spécialiser, à m'enfermer dans une activité, dans un poste. J'aime bien toucher à différents secteurs, différentes postures, différents sujets de réflexion, différentes perspectives théoriques, etc. Et donc effectivement, c'est pareil pour les... pour mon activité de formateur, je fais des vacations sur différentes thématiques, dans différents endroits, auprès de différentes filières.
Ok. Et la Rennes, pourquoi ? Parce que t'es breton ?
Pas du tout, non. C'est parce que on avait des amis avec ma compagne. On a beaucoup d'amis qui sont partis là-bas pour vivre ou pour visiter. Et à chaque fois, on a plein de bons échos. Et puis, ça nous a semblé être une région qui a gardé un côté... un peu indépendant, on va dire, avec une identité, une culture, des paysages, tout ça, etc. Et puis, non, à la base, moi, je suis du Nord.
D'accord.
Et donc, voilà, on avait envie de quitter l'Île-de-France, et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas la Bretagne, ça a l'air de correspondre, et voilà.
Très bien, donc, on va en venir maintenant à ton livre, mais c'était quand même important de comprendre un peu ton parcours et puis ce qui te motive dans dans le champ professionnel. Mais donc ce titre, je voudrais que tu l'éclaires un peu. Le travail social face à l'incertain. Alors, y a-t-il tant d'incertitudes que cela en ce qui concerne le travail social ?
Ben, il me semble que oui, à différents niveaux. La notion d'incertitude, en fait, quand on voit le titre comme ça, enfin, ce qui va venir à l'esprit, je pense, de beaucoup de collègues, beaucoup de monde qui observe un petit peu le travail social, même de l'extérieur, c'est que c'est une galaxie professionnelle qui est plutôt malmenée dans le contexte politique et économique actuel. Donc il y a une incertitude par rapport au... Il y a beaucoup de questions en ce moment sur la légitimité des intervenants, de l'intervention. Il y a une incertitude sur la pérennité.
Est-ce que tu peux développer légitimité de quel point de vue alors ?
Eh ben, je pense que c'est du point de vue notamment du rapport aux politiques publiques, notamment. Parce que le travail social, il me semble que pendant très longtemps, il s'est développé en essayant de mettre en avant la recherche d'une certaine autonomie. Une autonomie dans la détermination de ses finalités, de ses modalités d'action, etc. Mais depuis le dernier quart du XXe siècle, notamment avec la décentralisation, puis les nouvelles méthodes, le new public management, comme on dit, les politiques publiques qui sont tournées un peu plus vers des logiques de gestion entrepreneuriale, le travail social est de plus en plus... Il y a une instrumentalisation de plus en plus forte du travail social par les politiques publiques dans le sens où le travail social devient de plus en plus le bras armé, le bras, l'instrument, je dirais, vraiment l'instrument dans le sens le plus basique du terme, des politiques publiques. Donc il y a un recul de cette quête d'autonomie qui animait notamment jusque dans les années 60-70, où ça a été le pic un peu de cette recherche d'autonomie. Mais je pense que ça a commencé à décroître quand il a commencé à y avoir toute la période de crise économique, etc., où de plus en plus, on a commencé à dire le travail social, l'action sociale devient un instrument des politiques publiques et donc complètement soumis aux aléas, aux teneurs des politiques publiques, des politiques sociales. Ben, on a eu dernièrement des exemples avec tout ce qui est la lutte contre la radicalisation ou quand je parlais du fait que j'ai travaillé dans l'insertion par le logement, on avait été vachement questionnés avec mes collègues à l'époque sur... Les directives qui émanaient du ministère de l'Intérieur, c'était il y a peut-être deux ou trois ans, je crois, qui disaient que les centres d'hébergement devaient signaler à la préfecture les personnes qui étaient en situation administrative irrégulière. Et donc là, on se dit, mais on est vraiment un instrument de décisions politiques qui ne sont pas du tout dans nos finalités, dans nos modalités d'intervention, dans le sens de ce qu'on aimerait faire de notre travail. C'est...
Très bien, ok. Là, on arrive dans le lourd. On rentre dans le lourd. Donc, on va déjà faire une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour revenir et explorer un peu cette dimension que tu mets comme ça en exergue. À tout de suite.
Ciao!
toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Jonathan Louly pour son livre Le travail social face à l'incertain. Alors, nous étions sur tout le questionnement autour de l'incertitude. Est-ce que Jonathan, tout ne s'est pas un peu tricoté avec les questions de décentralisation à partir des années 1986 et le transfert des compétences de l'État au département en matière de protection de l'enfance, pour ce qu'il s'agit en prévention spécialisée, par exemple.
Oui, totalement. Mais je pense que la décentralisation, effectivement, ça a accentué, ça fait partie intégrante de ces phénomènes-là qui ont mis... C'est un ensemble de phénomènes qui ont mis plus directement et plus brutalement, en un sens, le travail social sous la coupe et sous la dépendance de la puissance publique un petit peu. Il y a Michel Chauvière notamment il y a des travaux où il montre bien que finalement la décentralisation n'empêche pas que en fait l'appareil de l'État central, pour dire ça grosso modo, a quand même il y a une chaîne de commandement très resserrée en fait. Si on parle de décentralisation, mais l'État central contrôle quand même il y a une certaine pression sur les départements qui eux-mêmes mettent une grosse pression sur les établissements.
C'est ça, par l'appareil législatif et réglementaire, par exemple.
Oui, voilà, et financier aussi, le nerf de la guerre. Il y a tout. Je me suis intéressé aussi un petit peu à toutes les questions de les finances des départements. Quand on regarde, c'est vachement intéressant parce que tout ce qui est les aides sociales, les allocations sociales, donc principalement le RSA, quand ça a été confié au département, ça a grévé leurs finances d'une manière incommensurable. Et donc finalement, les départements se retrouvent à financer différents services, donc l'action sociale, les allocations, mais aussi le travail social, tout en disant qu'ils sont étouffés financièrement et que donc du coup, il y a toujours des mesures, des dynamiques de rationalisation, des coûts, des actes, tout doit rentrer dans les cahiers des charges et chaque centime dépensé doit être justifié, etc. Et c'est la première face visible de cette situation d'incertitude en extériorité un petit peu quand on regarde le secteur, l'état du secteur, qu'on prend la température générale comme ça. Le secteur est confronté à une incertitude sur son propre avenir, sur ce qu'il va devenir et sur à quoi il va servir. Mais il y a une autre incertitude que j'ai essayé d'aborder avec le bouquin, qui se loge plus au niveau de la pratique, de la rencontre entre les professionnels et les personnes accompagnées. Et cette incertitude, elle se développe à partir du fait que l'acte professionnel, la rencontre entre le professionnel et la personne, il n'y a aucune forme de savoir, aucune forme de protocole, aucune forme de modélisation, de formalisation qui pourra tout prévoir et amener à une gestion totale. Il n'y a pas de script qui peut être possible dans l'activité du travailleur social. Parce que je compare avec des trucs qui n'ont rien à voir. Et la dernière fois, j'ai reçu l'appel d'un... les plateformes d'appel là, qui te vendent des différents services, etc. Là, c'était mon opérateur téléphonique. Et donc, il y a un mec qui me propose... donc, qui me dit, vous devez savoir que l'appel va être enregistré. Et là, il me fait un speech pendant, je sais pas, peut-être 2 minutes d'affilée non-stop sans reprendre son souffle, et où en fait je me suis souvenu que dans ce genre de métier, t'as un script que tu dois apprendre, et puis en fait presque il pourrait lancer un enregistrement et la machine ferait le même travail que lui. Dans le travail social, justement, c'est complètement l'inverse. Il y a toujours une marge d'incertitude. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette incertitude que tu peux avoir dans la rencontre avec autrui, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais il faudrait un protocole quand même, parce que si des fois vous êtes livré à vous-même, qu'est-ce qui va garantir que vous allez bien faire, etc. » Ben oui et non, parce que finalement, l'incertitude dans la rencontre, c'est aussi la condition d'une marge d'autonomie pour les professionnels comme pour les personnes accompagnées. C'est quelque chose justement qui peut être libérateur d'une certaine façon.
Mais est-ce que c'est pas en rapport avec toute la perte aussi d'une pertinence, je pense par exemple à toute la sémantique autour de ce qu'on appelait auparavant les transferts, transferts positifs, transferts négatifs, qui étaient liés à la culture psychanalytique qui disparaît. Et aujourd'hui, on parle plus de transfert, on parle de bientraitance institutionnelle, on a complètement transformé, on est passé dans une neuve langue aussi, pour paraphraser George Orwell, on est dans un monde où effectivement, peut-être qu'avant d'être dans la relation à l'autre, il faut mettre du gel hydroalcoolique sur la langue et sur les mains avant de pouvoir entrer en relation avec qui que ce soit.
Mais oui, effectivement, je pense que quand on parle d'incertitude, c'est... Bon, moi, il y avait aussi un choix stratégique un petit peu d'utiliser ce concept-là pour faire entendre aux observateurs extérieurs, aux décideurs, pour employer une catégorie extrêmement large, que c'est pas parce que ils ont pas une maîtrise totale de ce qui se passe et une lisibilité totale que ce qui se passe est forcément négatif ou douteux ou dangereux. Ou il faut accepter en fait une part de doute, une part d'ombre un petit peu d'une certaine façon, parce que c'est quelque chose qui est très très souvent reproché à la prévention spécialisée, c'est son manque de lisibilité. Souvent, on dit... d'ailleurs, c'est pas « on », c'est les financeurs, les décideurs disent que la prévention spécialisée n'est pas assez lisible. Mais sauf que ça, c'est quelque chose qui a commencé à émerger, comme tu dis, je pense que c'est relativement récent. C'est la loi 2002, avec toutes les exigences d'évaluation, de rationalisation, des actes, des pratiques.
Cela dit, moi qui connais bien ce champ d'activité, il faut dire aussi que les financeurs qui prétendent que la prévention spécialisée n'est pas lisible sont les premiers à ne pas lire les rapports d'activité qui sont produits chaque année.
Oui, c'est ça.
Donc, d'un côté, on ne lit pas les rapports et les études qui sont produites, et de l'autre côté, on exige une lisibilité, mais bon...
Oui, totalement. Totalement, il y a cette dimension-là en plus. Mais il y a le fait que... Moi, je pose... Je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans d'autres écrits où je pose la question, est-ce que la prévention spécialisée, tout d'un coup, elle est devenue illisible, ou bien est-ce que c'est les gens qui sont censés la lire qui ont changé de grille de lecture, d'une certaine façon?
Bien sûr.
C'est cette question-là aussi.
C'est plus la même demande, c'est plus la même exigence.
Oui, je pense aussi. Oui.
Et puis, il y a sans doute une volonté aussi normative de contrôle.
Oui.
On cherche à contrôler à la fois les professionnels... Et on cherche à les instrumenter, comme tu disais tout à l'heure, pour avoir une gestuelle professionnelle en direction de public ciblé.
Oui, il y a une tentative de... C'est même pas une tentative, parce que pour moi, l'instrumentalisation, c'est à partir du moment où la puissance publique, au sens large, concède des financements... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il y a des attentes de sa part en échange. Donc c'est pour ça que tu avais dû regarder toi aussi dans l'histoire de la prévention spécialisée. Lorsque les premiers financements publics sont arrivés à la toute fin des années 50, déjà à cette époque-là, il y avait des grosses dissensus dans les acteurs du secteur qui disaient c'est inconcevable d'entrer dans le cadre d'une politique publique parce qu'on va se faire instrumentaliser, on va se faire domestiquer un petit peu, alors que pendant 15 ou 20 ans, ça s'était développé d'une manière quasi clandestine. Mmh. Henri Pascal, il a écrit un bouquin génial qui s'appelle Histoire du travail social, où il dit la prévention spécialisée, les premières années, elle se développe dans une quasi-clandestinité.
Donc après, mais par des bénévoles.
Oui, voilà, par des militants, des bénévoles, une certaine avant-garde du travail social, de l'INI, tout ça. Donc, à partir du moment où on est financé par la puissance publique, forcément, il y a ce processus d'institutionnalisation qui est toujours à double tranchant, parce que tant mieux, ça aide à financer des postes, à développer l'action, à réglementer certaines choses, à garantir des salaires, une convention collective, etc. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a quand même aussi une certaine rigidification, il y a une pétrification de l'action telle qu'elle est menée. Mmh. Et quand ça rentre dans le cadre d'une politique publique, ben forcément, il faut répondre aux attendus, au format de la politique publique, au calendrier, aux agréments. Enfin, l'arrêté de 1972... Je me questionne beaucoup sur la formulation quand on dit que l'arrêté interministériel de juillet 1972 est l'arrêté fondateur de la prévention spécialisée. Pour moi, c'est... Enfin, pour être un peu provocateur, je dirais c'est, non, c'est l'arrêté fossoyeur de la prévention spécialisée dans le sens où c'est la première fois que la prévention spécialisée est reconnue légalement. Ben, ça veut dire qu'avant, pendant une trentaine d'années, c'était complètement... c'était freestyle, voilà, pour parler un langage hyper, hyper moderne. C'était freestyle, c'était militant, c'était très engagé, on bricolait. C'était vraiment une véritable alternative institutionnelle. Mais après 1972, il y a une reconnaissance légale, administrative, financière. Il y a donc forcément, c'est plus la même pratique. Puis après, comme tu disais, la décentralisation qui arrive derrière, qui impose d'autres normes de fonctionnement, d'autres... L'arrêté de 1972, quand on regarde, il détaille tellement tout ce processus d'instrumentalisation que c'est même écrit qu'il faut envoyer l'agrément en 3 exemplaires au préfet, il faut prévoir ci, il faut prévoir ça, le financement va être géré comme ci, comme ça, etc. C'est vraiment très... c'est une domestication pour moi, c'est une forme de domestication.
Très bien, on reprend après une pause musicale, à tout de suite.
Comme entrave, comme contour, comme lisière. La liqueur dans le freezer, les yeux rouges sous visière. L'absolu comme bordure, la punchline arbitraire. Des ennemis sur 10 heures, sur Neptune, Jupiter. J'ai fui leur pesanteur, leur fadaise mammifère. L'idiotie m'horrifie, leur sottise me sidère. Des babioles auxiliaires, leurs bricoles optionnelles. Les failles émotionnelles d'un couillon de mammifère. Marre de ses penchants, pitoyable petitesse. J'ai la fièvre salutaire et l'ardeur manifeste. Le dédain d'une tigresse, la réplique lapidaire. Positif, salivaire, exhaustif dans l'ivresse. J'ai largué les amarres, les rumeurs indigestes. Les étreintes imprudentes, les œillades indiscrètes. J'ai maudit vos idoles, les devoirs du trimestre. J'explore les méridiens, ils disent rien, moi je digresse. Les miens sont à bout de souffle, ils sont rien, ils veulent tout. Ils sont pleins, ils sont prêts, ils souriaient, ils sont sous. Ils sont dans la galère, personne ne les écoute. Personne ne les considère, c'est secondaire, ils s'en foutent. Ils agissent, ils s'en doutent, ils débordent de malice. De sagesse, de charisme, d'allégresse dans le calice. Tristesse dans les pantoufles, dans le Ouigo, dans le Thalys. TER, Blablacar, les boulevards, les manifs. C'est l'aube d'un nouveau monde, sans campagne désertique. Brisons tout comme Einstein, Galilée, Copernic. Besoin de révolution naturelle, énergique. L'horizon des humains, c'est plus rien, c'est merdique. Les réponses sont...
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, avec Pascal Lereste qui reçoit Jonathan Louly pour son livre Le travail social face à l'incertain. On a parlé du terme incertitude. Moi, ça me fait penser à la physique quantique, le principe d'incertitude. Et là, je te vois hausser la tête. Donc, je pense qu'il y a pour toi, en tout cas, une relation, il y a un lien. Moi, incertitude, ça me fait penser aussi au monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec le terrorisme. Et on ne peut pas passer sous silence les différentes lois depuis... depuis 2015, même avant déjà, hein, depuis Toulouse et Mohamed Merah, mais surtout depuis 2015, toutes les lois donc de lutte contre la radicalisation qui viennent aussi impacter la prévention spécialisée, mais au-delà, tout le travail social. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot là de cette incertitude du coup qui traverse l'action sociale de ce fait?
C'est vrai que le livre, justement, s'est tiré des recherches universitaires que j'ai achevées juste avant les attentats de 2015. Donc, au moment où moi, j'ai fini la première version du livre, la première version du manuscrit, en tout cas, on n'était pas encore vraiment dans toute l'hystérie qu'il y a eu par rapport à la radicalisation, etc. Et en fait, mes travaux universitaires, je les ai réécrits, j'ai recomposé certaines choses, j'ai mis à jour à la lumière de mon expérience et puis des années qui s'étaient écoulées. Et je me suis rendu compte, en le relisant et juste avant de mettre le point final au manuscrit et puis au livre tel qu'il est là, qu'en fait, j'en parlais pas beaucoup dans le livre, justement. Et je me suis dit que ça mettait bien en lumière le fait que c'est un phénomène, la question de la radicalisation, en tout cas notamment dans la façon dont elle heurte le travail social, c'est quelque chose d'extrêmement conjoncturel. C'est lié à la conjoncture politique. Parce que à l'inverse, ce dont je parle un petit peu dans le livre, et je me souviens qu'à l'époque où je faisais mes enquêtes de terrain, ça m'avait beaucoup, beaucoup questionné et travaillé, c'était plutôt la question des sans-papiers, puis de parce qu'on sortait de la période Sarkozy, et où il y avait vraiment une politique très haineuse, j'ai trouvé très haineuse à l'encontre des personnes en situation irrégulière, puis il y avait toute cette histoire de... Ça commençait à être la quantification des reconduites à la frontière, etc. Donc à l'époque où moi je faisais mes recherches, c'est plus ça qui m'avait questionné. Et j'avais plus échangé à ce sujet-là avec les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, justement en leur demandant, mais alors... vous êtes censés être des représentants un petit peu de la loi, de certaines autorités, d'un système républicain. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes confrontés à des gens dont des proches sont en situation irrégulière et vont être conduits à la frontière? J'avais des questionnements qui tournaient plus là-dessus, mais pas autour de la radicalisation en tant que telle, qui, elle, est arrivée après. Et en fait, C'est une question qui est très très inconfortable, je trouve, parce que elle est tellement elle-même chargée de instrumentaliser elle aussi en fait à des buts politiciens principalement, qu'en fait ça fait écran avec la réalité sociale, avec la pertinence de ce concept-là de radicalisation par rapport à une réalité sociale dont il pourrait parler pourtant. Et donc on a vu que du coup c'est quelque chose qui a été imposé aux professionnels, on nous a demandé de faire attention tout d'un coup à la radicalisation religieuse, etc., avec en plus des espèces de sous-entendus et des raccourcis de pensée que je trouve assez dégueulasses sur le fait que les éducateurs et les éducatrices de rue travaillent dans des quartiers populaires, où il y a une certaine partie de la population qui peut être issue de l'immigration, qui peut être de confession musulmane, etc. Donc on nous demande à nous en particulier de faire attention. Et je trouve que ça a vraiment été des raccourcis de pensée dégoûtants, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres problèmes que radicalisation religieuse et quartier populaire. Le lien, il va pas forcément de soi, il n'y a pas un lien mécanique, il n'y a pas un lien de cause à effet. En tout cas, ça peut être contesté, ça peut être nuancé de différentes manières. Et c'était d'autant plus difficile à vivre et à gérer quand je travaillais en prévention spécialisée que, en fait, justement, la prévention spécialisée repose aussi en grande partie sur l'idée de non-institutionnalisation des pratiques et le fait que la pratique et l'activité qu'une équipe éducative développe sur un quartier dépend étroitement des dynamiques locales, des tranches d'âge qui fréquentent l'espace public, des différentes cultures, des relations entre les groupes, entre les gens, entre les familles, des identités d'appartenance. Par exemple, nous, sur la ville où je travaillais, il y avait les quartiers nord et les quartiers sud, et c'était pas pareil. Et à l'intérieur, il y avait, dans le quartier sud où je travaillais, il y avait les gens des bâtiments A, les gens des bâtiments E, c'était pas la même chose. Enfin, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Donc, quand on a eu ce concept qui nous est tombé dessus comme une bouse, comme ça, on nous a demandé de faire attention à la radicalisation, etc., on s'est dit, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pénible de devoir tenir compte d'un truc qui ne fait pas sens, en tout cas sur nous, sur notre quartier.
Mais c'était une injonction.
Ouais, c'était totalement une injonction, effectivement. Nous, sur notre quartier, il y avait quand même d'autres formes de radicalisation qui étaient importantes à combattre. La radicalisation des inégalités, par exemple, socio-économiques, la radicalisation de l'enclavement dans lequel se trouvait le quartier, avec aucun transport en commun, enfin, à part un bus toutes les heures qui passait. Et après, on va demander à ces gens de s'insérer, d'être mobile, d'être ceci, cela, alors que ils habitent à une vingtaine de kilomètres de Paris à vol d'oiseau, et pourtant on met 1h30 pour y aller, enfin, autant y aller à pied ou à vélo. Donc il y avait d'autres formes de radicalisation que la radicalisation religieuse, en fait, qui était intéressante à prendre en compte et qui a impacté profondément le quartier. Hein.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces lois de lutte contre la radicalisation, elles disent jamais que la radicalisation, elle est religieuse.
Ah, j'ai pas regardé les textes législatifs dans le détail, mais effectivement, c'est pour ça que moi je m'amuse beaucoup avec ça. Et quand ça a commencé à nous tomber dessus, avec d'autres collègues, on s'est dit, mais on lutte pas. En tout cas, à l'époque, on luttait pas beaucoup contre la radicalisation des violences sexistes, par exemple, la radicalisation de. Enfin, il y a plein de formes de. Y a plein de phénomènes sociaux, culturels, politiques qui sont.
Et dans cette équipe, alors justement, est-ce qu'il y avait un vrai travail de lutte contre la radicalisation, ou bien est-ce que, comme moi j'ai pu l'écrire à différents endroits, il y avait une esquive de la part des équipes qui, malgré l'injonction des cadres dirigeants des structures, étaient obligés en fait d'esquiver, voire de mentir, parce que c'est impossible de faire cette lutte-là. D'abord parce que les professionnels ne sont pas formés en la matière. Ils ne sont pas formés à détecter qui est radicalisé ou non, et ceux qui sont radicalisés ne l'affichent pas avec un symbole distinctif. Ouais. Et donc, du coup, il y avait tromperie sur la marchandise.
Bah, d'une certaine façon, oui. Alors nous, j'ai envie de te dire, c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu un vrai travail qui a été fait là-dessus, mais il n'y a pas non plus une esquive. Pourquoi ? Parce que ça n'a, en tout cas sur le quartier où moi j'intervenais, ça n'a pas eu lieu d'être. Tout simplement parce que on était sur un quartier extrêmement peuplé et concentré dans une très très forte densité de population. Donc ce qui fait que potentiellement, sur un quartier qui faisait quelques centaines de mètres sur quelques centaines de mètres, il y avait plus de 10 000 habitants. Et il y a eu un seul jeune, une fois, pour lequel j'ai un collègue qui m'a dit ben moi, tu vois, si je devais faire un signalement pour radicalisation, ce serait ce jeune-là. Et ce jeune que, en l'occurrence, j'ai rencontré par la suite, et en fait, c'était pas du tout une radicalisation religieuse, c'était, pour continuer les petits jeux de mots là-dessus, c'était une radicalisation d'une pathologie psychiatrique, en fait. Il a fini en HP quelques temps plus tard, enfin, on l'a vu. C'est son état mental pour plein d'autres raisons qui s'est brusquement dégradé. Il a commencé à avoir des délires un peu mystiques, mais là c'était de la pathologie mentale, c'était pas la radicalisation religieuse, idéologique, etc. Et donc voilà, pour répondre à ta question, nous, sur les centaines de jeunes qu'on pouvait potentiellement toucher, pas accompagner, mais qu'on pouvait potentiellement toucher, il y en a eu qu'un seul une fois où on s'est posé des questions.
D'accord. Mais il y avait quand même une injonction de la part de la direction de votre service pour travailler sur cet aspect.
Mais même au-delà de notre service, c'était le département. Je ne saurais plus te dire si c'était qui, quoi exactement, mais le département,
c'est la cellule,
finances,
la cellule.
Oui, je pense que c'était
il y avait des cellules
qui
ont vocation à détecter et lutter contre la radicalisation.
Ouais, et donc qui nous proposait voilà des journées de formation une formation un peu conceptuelle et puis ensuite un peu méthodologique aussi sur comment on fait, comment on procède, quels sont les chiffres, etc. C'était intéressant en soi, hein. Moi je suis toujours content pour être formé sur des choses que je connais pas, mais bon, il y avait des choses. Ce que je me suis rendu compte après, c'est qu'il y aurait eu des choses plus utiles à faire, en tout cas pour moi, pour mon quartier, pour nos territoires dans lesquels on était, quoi. Mais il y avait quand même, effectivement, il y avait des. Oui, comme. Si, bah, des injonctions, effectivement, d'une part, à dire. Qui cherchait à attirer notre attention et notre vigilance sur ces phénomènes-là. Puis en même temps, il y avait aussi, au-delà de ces injonctions, des suggestions très fortes, comme dans le cadre de ces formations-là. Des formations, par exemple, sur les rapports garçons-filles, sur l'espace public, ça, j'en ai pas eu, j'aurais bien voulu en avoir. Des formations sur comment gérer... des groupes de jeunes qui cherchent à s'insérer professionnellement sur un marché du travail qui est complètement saturé et où il y a 150 000 emplois disponibles en France pour 10 millions de chômeurs. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce genre de demande-là ? Ça, j'aurais bien aimé te former aussi là-dessus, par exemple. La radicalisation religieuse, on a eu des temps de formation très intéressants en soi, mais pas très utiles dans la pratique après.
Sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur. Nous sommes maintenant donc dans notre rubrique Les livres du mois. Alors, avec un premier livre, Les végétariens ramènent leurs fraises de deux jeunes femmes, Mia Kouako et Caroline Guérin, publié donc chez L'Harmattan, collection Questions alimentaires et gastronomiques, un livre de 2019. Donc, un livre. Qui est drôle, comme son nom l'indique, et qui fait un peu le point au travers d'entretiens qui sont assez savoureux et qui mettent en évidence, bien sûr, l'intérêt d'être végétarien aujourd'hui et qui montrent aussi, dans différents contextes, comment eh bien, on est convoqué à devoir expliciter, justifier un positionnement alimentaire. Voilà, donc c'est un livre d'actualité parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à l'abattage animal et par rapport au mauvais traitement que nous infligeons en général aux animaux, pas qu'aux animaux, mais enfin aux animaux aussi en particulier. Et donc je rappelle ce livre, très drôle, très très drôle à lire, très drôle mais sérieux sur le fond. Donc, qui s'appelle donc, « Les végétariens ramènent leurs fraises » de Mia Kouako et Caroline Guérin. Et ensuite, les trois autres livres. Les trois autres livres sont d'un auteur, Jean-Christophe Rixman. Alors, premier livre, « L'enfant en situation de rue, entre résistance, rupture et résilience ». Alors, il faut dire que Jean-Christophe Rixman est un jeune auteur qui est docteur. Docteur en sociologie et donc qui est docteur en sciences politiques et qui est directeur de projet chez Dynamo International et qui travaille en particulier au Népal pour aider donc les enfants en situation d'errance, d'itinérance et donc il signe dans ma collection Éducateur et prévention chez L'Harmattan. Il signe ces trois livres qui sont extrêmement importants pour tous ceux qui cherchent à intervenir donc dans l'espace public, pas seulement en France, hein, un peu partout dans le monde. Donc je redis ce premier livre, « L'enfant en situation de rue, entre résistance, rupture et résilience ». Donc un livre vraiment très important pour travailler les questions autour de l'enfance et de la jeunesse. Un deuxième livre, toujours donc de Jean-Christophe Rixman, Népal, deux points, enfants et jeunes en situation de rue, réalité rurale et survie urbaine. Donc Jean-Christophe Rixman fait le pont entre ce qui se passe dans les campagnes népalaises et comment la désocialisation conduit ensuite à une errance dans les villes et comment en même temps les enfants sont en capacité de pouvoir dépasser les difficultés qu'ils rencontrent si l'on est capable de mettre en face une action sociale qui y corresponde avec efficacité. Donc, Népal, deux points, enfants et jeunes en situation de rue, réalité rurale et survie urbaine, toujours dans la collection Éducateurs et prévention chez l'Harmattan, de Jean-Christophe Rixman. Et son troisième livre, La protection des enfants en situation de rue, désinstitutionnalisation, confusion et transformation. Donc, cette fois, Jean-Christophe Rixman expose les moyens éducatifs qui existent pour prévenir en fait les situations et explique comment on peut répondre à ces problématiques sociales qui sont extrêmement pénibles donc pour la société népalaise, mais en particulier donc pour ces enfants qui souffrent particulièrement. La protection des enfants en situation de rue, désinstitutionnalisation, confusion et transformation chez l'Harmattan dans la collection Éducateurs et prévention. Une pause musicale et nous retrouvons juste après Jonathan Louli. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Un livre, un auteur, qui reçoit aujourd'hui Jonathan Louli pour son livre Le travail social face à l'incertain, publié dans la collection Éducateurs et prévention chez l'Harmattan. Bien, nous arrivons un peu au terme de cette émission, Jonathan, mais voilà, j'aimerais quand même que pour les auditeurs, tu puisses nous dire un peu quels sont les éléments vraiment phares de la prévention spécialisée qui font que ce champ professionnel spécifique mérite de connaître une prolongation dans sa mise en œuvre.
Ben, moi, j'aime beaucoup l'appellation de éducateur de rue parce que c'est justement la prise de position initiale de gens comme le pédagogue Fernand Deligny, et puis il y en a eu d'autres après qui ont expérimenté cette démarche qui consiste vraiment à aller dans la rue, pas forcément dans la rue, mais en tout cas dans les lieux de vie, dans les quartiers de vie, dans les rues où habitent des gens, notamment des jeunes gens, des adolescents, qui ont échappé un petit peu au réseau institutionnel, aux prises en charge traditionnelles, on va dire, enfin aux prises en charge qui étaient traditionnelles et classiques jusque dans le courant du XXe siècle, et que justement la démarche inverse, qui est d'aller à leur rencontre là où ils vivent et là où on peut estimer qu'il y a des besoins, en termes de où il faut bricoler un petit peu pour restaurer, pas restaurer, mais pour consolider le lien social, pour consolider ce que je disais au début, cette idée d'une appartenance commune à tout un ensemble social, on va dire, à toute une société. Pour moi, la pertinence de la prévention spécialisée, c'est ça, c'est cette capacité à vraiment aller à la rencontre des gens là où ils vivent et de le faire à leur rythme et de coller à leurs intérêts. Et ce que je Après, donc, toute une série d'enquêtes de terrain et d'analyses, des discours et des discussions que j'ai eues avec les professionnels, avec les éducateurs, les éducatrices de rue, ce que je me suis aperçu, c'est que, comme je l'explique dans le bouquin, dans la dernière partie, c'est que la force de la prévention spécialisée, c'est de prendre appui sur les capacités d'autonomie des gens en vue de les renforcer, de les développer. C'est un peu comme il y a un éducateur un jour qui a pris cette image que j'oublierai jamais, c'est l'image de la graine qu'on plante. Quand tu es éducateur de rue, tu plantes une graine et puis après tu fais en sorte que ça pousse bien. Mais c'est pas toi qui fais les choses, c'est pas toi qui dis comment elle doit pousser, dans quel sens, quelle forme, quelle couleur, etc. La plante, elle pousse seule. Toi, t'es juste là pour essayer de sublimer ses capacités à l'autonomie. Et c'est ça que je trouvais génial dans la prévention spécialisée, telle qu'elle s'est développée avec toute la teneur militante dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est cette capacité d'aller chercher des gens et de leur dire vous êtes dans une situation économique, sociale, etc., qui n'est pas forcément toujours top, parce que vous êtes relégué économiquement, parce que vous êtes stigmatisé à cause de votre culture, etc., etc. Mais pour autant, vous êtes des sujets avec des capacités, avec des désirs, et moi, ce qui, en tout cas, dans ma pratique, dans ma réflexion, avec les années qui ont passé, là, c'est vraiment cette notion d'autonomie qui me paraît fondamentale. Parce que dans d'autres types de prise en charge, c'est différent. On ne mise pas tout sur l'autonomie, ou en tout cas pas de cette manière-là. Si on apprend aux gens une certaine autonomie, mais il faut quand même qu'ils rentrent dans les cases, il faut qu'ils arrivent à l'heure au rendez-vous.
Ils ne sont pas forcément demandeurs dans les autres types de prise en charge.
Et puis en plus, ils ne sont pas forcément non plus demandeurs, effectivement. La prévention spécialisée, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, la base de la démarche de la prévention spécialisée, c'est le concept de libre adhésion. C'est-à-dire que la base de la rencontre, en tout cas la base d'une rencontre qui dure, d'une relation... Ben, c'est la libre adhésion, c'est le fait que la personne que l'éducateur va accompagner, elle décide, elle fait le choix délibéré, la démarche de s'engager dans cette relation-là. Et moi, c'est ça qui me paraît quelque chose non seulement d'important, mais aussi d'original, tant et si bien que là, ces dernières années, depuis les années 2000-2010, il y a de plus en plus de rapports de rapports publics, de rapports parlementaires, qui de manière extrêmement paradoxale mettent en avant des principes comme l'aller vers, le travail collectif, etc., qui les mettent en avant comme si c'était des grandes innovations, alors que la prévention spécialisée fait ça depuis les années 40. Et du coup... c'est pour ça que la période 2015, qui a suivi les attentats, puis tout le battage autour de la notion de radicalisation, c'était un moment extrêmement paradoxal. Parce que d'un côté, on disait on n'a plus d'argent pour financer la prévention spécialisée, mais en même temps, d'un autre côté, on se rendait compte que les principes qu'elle applique depuis des décennies, on se rend compte de leur pertinence et de leur utilité.
Bien sûr. Alors donc, il faut que tous les auditeurs se mettent en quête de ce livre de Jonathan Loulou, que vous pouvez trouver à la librairie Les Perluettes ou que vous pouvez commander également sur Internet. J'en rappelle le titre. Le travail social face à l'incertain, avec pour sous-titre La prévention spécialisée en quête de sens. Donc, chez l'Harmattan, collection éducateur et prévention. Et je voudrais, pour conclure, Jonathan, que tu nous dises un peu tes projets là pour l'avenir. D'autres livres, des études, des articles
Toujours. De toute façon, par rapport à ça, il y a mon site jlouli.fr.
Alors, il faut le détailler. Tu peux épeler, puis on mettra peut-être également ces informations sur le site de Radio Grand Ciel. Alors, on reprend.
Donc, jlouli, donc jlouli.fr. sur lequel effectivement j'ai mis tous les articles, mm-hmm. les travaux de recherche, etc. que j'ai mis que j'ai publié ces dernières années. Et si
il y a des vidéos aussi.
Il y a aussi quelques vidéos. Je commence à m'y mettre aussi parce que c'est dans l'air du temps, donc il faut bien s'adapter au format. Effectivement, et du coup, le virus de la recherche, de l'écriture, de l'analyse théorique, etc., moi, m'a mordu il y a longtemps, donc je vais continuer toujours à publier des articles qui questionnent les pratiques professionnelles dans le travail social, qui questionnent aussi les politiques sociales, le contexte, les configurations générales dans lesquelles on est. Et puis des projets de livres, carrément, bien sûr, toujours sur ces sujets-là, sur les sujets dont on parlait un petit peu au début, hein, sur les reconfigurations du contexte général dans lequel doivent travailler les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales.
Voilà, donc c'est vraiment super, un jeune auteur, 30 ans, qui s'implique dans l'espace public, qui est à la fois dans l'action auprès des publics en difficulté, mais qui en même temps réfléchit, qui caractérise sa pensée, qui écrit, et qui vient en témoigner notamment au micro de Radio Grand Ciel. Il nous reste à te remercier, Jonathan. Remercier également Simon Martin, donc à la technique, et donc à vous dire à toutes et à tous, chers auditeurs, au mois prochain.
Respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de bailar.